On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
La vie est le maître mot de l'agroécologie. L'homme la pratiquant se met au service de cette vie, vie de la terre, de la plante, de l'animal et de leurs relations et interactions. Hélène Hollard est motivée par une approche globale de la santé, prenant en considération l'homme, son environnement et son alimentation. Collaboratrice de longue date de Pierre Rabhi, elle a introduit l'agroécologie dans l'enseignement agricole. Bénin, d'abord salarié agricole puis agriculteur, anime des actions de coopération internationale pour l'enseignement agricole. Avec Hélène, tous les deux donnent des conférences et des cours et accompagnent des groupes et des particuliers vers les pratiques de l'agroécologie. Dans notre émission de Carbone Zéro, nous allons découvrir l'agroécologie. Mais d'abord Hélène, explique-moi, qu'est-ce qui t'a amené à l'agroécologie ?
J'étais d'abord infirmière moi, donc, et comme infirmière j'ai cherché du travail, je voulais travailler en Afrique et j'ai cherché du travail dans une approche globale en me disant ce qui était important c'était pas que la santé, la prévention, les vaccins et tout ça pour les gens, c'était aussi de manger correctement, d'avoir un environnement qui soit correct et tout ça. Et quand j'ai cherché du boulot dans cette optique-là en 81, bon ça c'est une date facile à se rappeler, j'ai pas trouvé quoi. Et donc de fil en aiguille, je me suis dit je vais partir comme ça toute seule en Afrique, donc je suis partie comme ça. Et en fait ce que j'ai vu c'est que le métier d'infirmière ça avait pas de sens, en tout cas pour moi ça avait plus de sens parce que la prévention, tout ce que j'aurais pu faire là-bas ça m'intéressait pas. Et donc du coup j'ai changé de métier et je suis passée dans le monde agricole à ce moment-là. Et en fait l'agriculture, la santé c'est pareil, c'est-à-dire c'est les laboratoires qui mènent les professions on va dire. Et donc cette approche globale-là elle n'était pas plus à la mode il y a une trentaine d'années dans l'agriculture que dans la santé quoi.
Vous êtes là pour faire une conférence, qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'on va apprendre ?
Mais disons, ce que moi j'aimerais que les gens reçoivent surtout, c'est cette approche globale, c'est-à-dire que tout est lié. C'est-à-dire que quand on fait un geste dans le quotidien, en fait il a une incidence ailleurs sur la planète, mais en tout cas prendre conscience de ça. Par exemple des gens qui adorent la viande, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent la viande, et bien s'ils prennent conscience que quand ils prennent de la viande qui vient d'élevage industriel, qu'on a pris de l'OGM, du soja OGM par exemple pour nourrir ses vaches, et que pour faire ça, on a déforesté une grande partie de la forêt amazonienne, qui participent à ça, alors qu'en même temps, ils sont conscients que le climat se dérègle et qu'ils n'ont pas envie de participer, c'est important. Donc déjà ça, moi, je trouve de prendre conscience de ce lien qu'à chaque geste quotidien avec l'ensemble de ce qui se passe, quoi.
J'ai l'impression que des fois, prendre conscience, c'est se remettre en question et qu'on est quelque part un peu paresseux, qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver face à ses propres incohérences.
Ouais. Oui, c'est sûr, hein, parce que justement, dans l'agroécologie, il y a toute une dimension individuelle qui est de changer. Quand on dit, par exemple, Pierre Rabhi, il parle de changement de paradigme. Ce changement-là, il commence par soi, c'est-à-dire même si on sait qu'on a un fond, un tempérament qui ne va pas bouger, on sait très bien que si on continue, je ne sais pas, moi, par exemple, dans mon pays, moi, je viens des Alpes, on brûlait pour débarrasser l'herbe, on brûlait. Parce qu'après, une fois que c'était brûlé, l'herbe poussait plus verte et tout ça. Maintenant, j'ai changé de comportement parce que je sais que c'est pas forcément intelligent à tous les niveaux. Ça avait des avantages, ça a aussi des inconvénients. Donc, on sait que c'est difficile de changer. Pour chacun d'entre nous, c'est difficile. Mais après, les enjeux pour nos enfants, pour la planète, ils sont quand même plus importants que notre petit ego et nos habitudes, quoi. Donc, je dis pas que c'est facile, hein. Mais déjà, si on prend conscience, c'est la première étape. Après, on se dit, peut-être que là, je faisais des conneries. Peut-être que je vais changer de comportement. Puis, on change une petite chose, puis après une autre. Et puis, voilà. Puis, après, on se retourne au bout de 10 ans, on dit, finalement, j'ai changé pas mal de choses. Donc, si chacun fait ça, ça fait un peu boule de neige. Et puis, voilà.
Et comme tu disais, c'est global, donc peut-être qu'en changeant quelque chose dans son quotidien, dans son alimentation, on peut se sentir plus heureux aussi.
Oui, plus heureux, mieux dans sa peau, et puis mieux dans son porte-monnaie aussi, et puis rencontrer d'autres gens. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer, oui, qu'on ne sait pas au départ. C'est aussi ce qui fait peur, c'est que c'est un peu la peur de l'inconnu. Et en même temps, cet inconnu, il va nous amener beaucoup de choses qu'on ne prévoit pas, puis qui seront enrichissantes à tous les niveaux. Hein.
Marcher des heures à travers la forêt,
respirer par le nez, se retourner jamais,
mettre un pied devant l'autre pour trouver le repos,
poser les balises d'un monde nouveau.
Mmh. l'arrière.
Ermite volontaire évadé de l'enfer.
Faire une prière et faire un feu de bois.
Boire à la rivière pour la première fois.
Pour tout ce qui est vie du sol et digestion des matières organiques, c'est ce qui fait partie de la classe de ce qu'on appelle les détritivores, et c'est très important. Et tous ces insectes, qu'ils, peu importe notre ressenti par rapport à eux, parce que beaucoup de gens disent « Ah, moi j'ai peur des araignées, je peux pas voir ça, ça ressemble à un ver, je sais pas quoi. » Bon, ben, hein, peu importe nos appréhensions, ils ont le droit d'exister, quoi. Et c'est pas parce qu'on a peur d'eux qu'on doit les écraser. Hein. Faut plutôt travailler sur sa peur que sur la présence de l'insecte. Donc le challenge de l'agroécologie, le défi, c'est d'aller à contrario de ce qu'on nous dit depuis la sortie de la guerre, c'est-à-dire depuis le plan Marshall, quoi. Hein. On nous explique que ce qui est important, c'est la quantité. Et on nous explique que la quantité, c'est au détriment de la qualité. Donc l'agroécologie veut démontrer le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas antinomie entre quantité et qualité au niveau de l'agroécologie. Et puis on nous a expliqué aussi très longtemps que ce qui était important, c'est l'économie, puis que l'écologie, tant pis, voilà. Et c'est en train un peu de changer de discours, mais nous, à l'agroécologie, on dit on peut trouver l'équilibre entre ces quatre vecteurs-là qui doivent aller dans un point qui n'est pas le même suivant l'écosystème. Chaque écosystème doit trouver son équilibre. Il n'y a pas une agroécologie, il y a une agroécologie adaptée à chaque région, à chaque terroir, à chaque climat, à chaque culture, parce qu'il faut aussi prendre le mot culture au sens cultural et au sens culturel aussi.
Chantez avec le lièvre, le renard et le loup. Voyez vers la cache du carcage. Jouez de la vielle avec un farfadet.
Descendre dans la grotte avec les feux follets.
Laissez la poésie décider de s'en
sortir au matin et accepter la mort.
Mordre dans la vie sans penser à demain.
Maintenir le cap tout droit vers son destin.
Ouais, on parlait de la rencontre avec Pierre Rabhi. Qu'est-ce que cette rencontre a suscité ?
Ben, disons, pour moi, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça a vraiment été de me conforter dans l'approche globale et puis dans le fait que j'avais que la santé et l'agriculture, ça pouvait aller ensemble, quoi. Donc déjà ça, parce que c'était tous les autres, les personnes que je rencontrais, ils avaient un grand sourire et puis ils me disaient « Ah, c'est bien de voir quelqu'un d'utopique, mais bon, passez votre chemin, c'est pas comme ça qu'on peut vivre, on veut pas travailler dans ce domaine-là, quoi. » Donc ça a déjà changé ça, c'est que ça m'a réconforté moi intérieurement, et puis du coup j'ai continué quand même dans cette direction-là, malgré tout ce que je voyais autour, quoi. Voilà, après je veux dire l'agroécologie c'est des bases, et après les fondements, quoi. Puis après il faut le mettre en musique de différentes façons, quoi.
Parce que l'agroécologie c'est un terme qui a été créé ou inventé par Pierre ?
Enfin, non, il était importé en France par Pierre, mais à l'origine il était inventé par un Russe, mais très peu utilisé, après repris par Altieri qui est un Sud-Américain. L'approche d'Altieri, c'est une approche comme une discipline scientifique, l'agroécologie comme discipline scientifique. Alors que Pierre Rabhi, lui, c'est l'agroécologie comme package technique, social, économique, de mise en pratique, quoi.
Alors comment la définir je suis ton fils et je te dis papa, c'est quoi l'agroécologie ?
En deux mots, c'est une agriculture qui s'insère dans un environnement écologique au sens global du terme, c'est-à-dire qui prend l'environnement, le social et l'économique, quoi. Les trois piliers du développement durable, quoi.
Mais alors, maman, c'est quoi la permaculture ?
Permaculture, ça fait partie de l'agroécologie. Donc, c'est-à-dire, ça vient de l'agriculture naturelle, mais les bases sont les mêmes, quoi. Il y a des pratiques qui vont être un peu différentes, mais les bases sont les mêmes. C'est-à-dire de respecter la vie, même de favoriser la vie du sol, déjà. L'équilibre de la plante, l'alimentation humaine, et puis s'insérer, en tout cas, dans un environnement, un paysage qui soit harmonieux, et voilà, et de pas tout détruire sous prétexte qu'on veut avoir une production, alors soit agricole, soit de jardin, hein, parce que c'est pas que agriculture au sens, comment on appelle, statut agricole, quoi. C'est aussi dès qu'on touche à la terre, hein. Ou même dès qu'on a une jardinière chez soi et qu'on va acheter des graines, où est-ce qu'on les achète, tout ça fait partie, alors, pas de la permaculture, mais de l'approche globale, quoi.
On va essayer de la faire simple et on va essayer de recréer un peu une dimension visuelle, parce que là on est au micro. On parlait de l'Alsace en arrivant, on y voit des jets d'eau avec des plaines de maïs. Si maintenant on enlevait tout ça et qu'on développait l'agroécologie sur nos territoires, qu'est-ce qu'on verrait ?
Déjà, on verrait plus la terre nue, premièrement. On verrait donc du vert ou de la culture, des arbres, beaucoup d'arbres. On verrait des haies, on verrait des fleurs, on verrait... Voilà. Après, si justement on parlait de permaculture, on verrait peut-être des buttes, on verrait des formes arrondies, on verrait quelque chose qui soit harmonieux au niveau des formes aussi, des couleurs. Et voilà, donc... Puis on verrait aussi des choses qui poussent, enfin des cultures. Alors, en Alsace, c'est pas, il n'y a pas non plus que la vigne. Moi, je ne suis pas alsacienne, hein, donc je ne sais pas ce qui peut pousser le mieux ici. Mais on verrait des tas de choses différentes qui pousseraient. Disons que visuellement, ce qui sert un peu de modèle en agroécologie, c'est ce qu'on appelle le jardin créole. C'est-à-dire que tous les étages sont... Il y a quelque chose à tous les étages. Depuis les patates douces, par exemple, qui couvrent le sol, jusqu'aux arbres, et en passant par des haricots qui grimpent sur des maïs. Donc voilà, donc, et puis c'est quelque chose qui est beau. Qui est coloré, qui est harmonieux. Voilà, après c'est aux Alsaciens de dire ce qu'ils feront pousser.
Pendant longtemps, on nous a fait croire que la seule issue possible pour nourrir l'homme, c'était la monoculture, la chimie. Mais est-ce qu'on peut nourrir la planète si maintenant tout le monde se met à l'agroécologie ou à la permaculture ou à d'autres modes de plantation plus respectueuses de l'environnement ? Est-ce qu'il y aura assez pour tous ?
Alors, il y a des études qui sont beaucoup plus vieilles qu'on ne pense, qui datent des débuts des années 80. Des études qui ont été faites sur une peuplade qui s'appelle les Bamileke, sur les plateaux du Nord Cameroun, qui ont démontré que le système donc qui ressemble au jardin créole, qu'en fait un système polyculture complexe, multi-étagé, avec couverture du sol permanente, une culture suit l'autre, ça s'intercale, enfin, etc., c'est compliqué, beaucoup, beaucoup plus productive à l'hectare que nos monocultures. Alors quand on dit beaucoup plus productive, attention, c'est pas en quintaux, c'est en calories. Parce qu'on peut pas, 115 de blé, ça fait combien de calories? Mais après, si j'ai un peu de taro, un peu de haricot, un peu de banane, machin, un peu de, j'arrive à combien? Voilà. Donc, en calories, les systèmes complexes sont beaucoup plus productifs que la monoculture. Ça, c'est prouvé depuis très longtemps. Alors, on en parle aujourd'hui beaucoup parce que depuis qu'Olivier de Schutter, le rapporteur des Nations Unies, a fait sa conférence à Genève en 2011. Après, il y a eu le film de Marie-Monique Robin, il y a eu les travaux du fumier, là, de AgroParisTech. Il y a les conférences de Claude Bourguignon. Enfin, maintenant, ça y est, ça devient. On en parle, quoi. Je ne veux pas dire que tout le monde y croit, mais on en parle. Voilà. Et c'est établi. Et les gens qui disent le contraire sont des gens mal renseignés. Je ne veux pas dire malhonnêtes, mais mal renseignés.
Il n'y a pas de compassion, oh non. Il n'y a pas de compassion. Pour la paix, pas de passion. Au peu de gens sages, positifs, qui dans les nations, égalité en détention, nos temps, c'est les tensions. Tellement fatigué que le monde de la sorte sombre dans l'abîme où les hommes ne sont plus que des ombres. Où tous les moments de la vie sont ponctués par des crimes, des pleurs, des peurs et des cris qui nous dévorent l'esprit. Hadamane umananyo gomonia domina. Okele bebon, ala kele bebon. Hadamane umananyo gomonia domina. Okele bebon, ala kele bebon. Oui, j'ai peur, les missiles et les bombes, l'humanité creuse sa tombe. À chaque instant, partout, nombreux sont nos frères qui tombent. À cause de nos bêtises, de ce que l'on fait de ce monde. Wop, horrible, ce que l'on fait de ce monde. Ce que l'on fait de ce monde. J'allume la télé, encore une nouvelle guerre. Je change de chaîne, encore une autre guerre. J'éteins la télé, encore une nouvelle guerre. Je vais me coucher, encore une autre guerre. Oui j'ai peur, oui j'ai peur, oui j'ai peur, oui j'ai peur, oui j'ai peur. De ce que l'on fait de ce monde. De ce que l'on fait de ce monde. Hatamane umananyo gomonia domina, okele bebon, ala kele bebon. Hatamane umananyo gomonia domina, okele bebon, ala kele bebon. Oui j'ai peur, des missiles et des bombes, l'humanité creuse sa tombe. A chaque instant nombreux sont nos frères qui tombent. A cause de ce que l'on fait de ce monde. Ce que l'on fait de ce monde. Ce que l'on fait de ce monde. De voir que l'âge n'a plus d'importance dans l'innocence, tant à faire la mal. Car le mal sans complexe, basé sur les écrans, accro, les plus petits voient la vie qui les attend. À base de scénarios catastrophes,
les bad news sont le béaba. Y a-t-il encore de l'amour ici pas? Je sais pas, moi j'en ai, toi t'en as, ils en ont, vous en avez. Pourtant tous les jours c'est l'écho de la haine qui résonne dans les télés, les télés, les télés, les télés. Résonne dans les télés, les télés, les télés, les télés. J'allume la télé, encore une nouvelle guerre. Je change de chaîne, encore une autre guerre. J'éteins la télé, encore une nouvelle guerre. Je vais me coucher, encore une autre guerre. Oui, j'ai peur, oui, j'ai peur, oui, j'ai peur, oui, j'ai peur, oui, j'ai peur. Le ce que l'on fait de ce monde. 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 J'allume la télé, encore une nouvelle guerre. Je change de chaîne, encore une autre guerre. J'éteins la télé, encore une nouvelle guerre. Je vais me coucher, encore une autre guerre. Oui, j'ai peur, oui, j'ai peur, oui, j'ai peur, oui, j'ai peur, oui, j'ai peur. Ne ce que l'on fait de ce monde. Ne ce que l'on fait de ce monde. Ne ce que l'on fait de ce monde.
Est-ce que tu as des clés de compréhension pour permettre une approche facile? Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour faire passer ça, cette globalité et puis cette prise de conscience? Parce que c'est vraiment sur ça que tu veux bosser, c'est la conscience de l'homme. Comment est-ce que aujourd'hui, je prends conscience que dans chacun de mes actes, il y a des répercussions et que je peux changer le monde?
Enfin, moi, ce qui me mobilise beaucoup, c'est la santé, hein, puisque en tant qu'ancienne infirmière, c'est vrai qu'infirmière, c'est plutôt la maladie que la santé, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la santé des gens. Donc, tout ce qui est alimentation, par exemple, je trouve que c'est une entrée, la santé de chacun, le bien-être et puis l'alimentation, c'est vraiment une entrée importante. Parce que quand on commence à changer, donc là, pour des petites choses qui demandent pas un gros investissement individuel, on se rend compte qu'il y a beaucoup de conséquences, beaucoup d'impact. Donc déjà, ça, pour moi, c'est une clé qui est vraiment importante.
Sur la table, on a un bouquin qui est posé, Les dossiers de l'écologie, l'agroécologie. Hélène Hollard et Bénigne Joliet, qui ont co-écrit ce livre. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver dedans, Bénigne?
Alors, on a voulu, notre objectif, c'était d'arriver à faire quelque chose, un ouvrage qui soit tout public déjà. Donc, l'agriculteur peut trouver matière à remettre un peu en cause, en se remettre en question sur ses pratiques. L'étudiant, il va trouver des pistes de travail. Le prof, il va trouver des exemples pour, dévoyer un peu l'enseignement officiel, on va dire, etc. Donc, mais le fil rouge, c'est la vie, c'est-à-dire le respect de la vie, quoi. Comment l'agriculteur est en fait non pas un épandeur de pesticides, mais un animateur d'un système vivant, c'est-à-dire qu'il est animateur de l'agroécosystème qui est vivant et donc qui doit juste potentialiser, c'est-à-dire mettre en orienter pour que ça se développe le mieux possible. On prend un exemple, le sol c'est un milieu vivant. Il y a des milliards d'organismes vivants dans le sol, hein, puisqu'il y a plus de vie dans le sol que sur le sol quand il y a un troupeau de vaches dans un pré. Bon, voilà. Ça, c'est tous des ouvriers dans le sol qui travaillent gratuitement, sans 13e mois, sans congé payé, sans grève, sans rien. L'agriculteur doit faire quoi? Juste leur donner des bonnes conditions de travail. Des bonnes conditions de travail, c'est quoi? C'est une bonne aération, c'est une bonne humidité et de la matière organique. À partir de là, tous les micro-organismes vont avoir un sol vivant qui va donner des plantes vivantes, en bonne santé, de bonne productivité. Donc en fait, l'agroécologie, si on pourrait résumer un mot, c'est le respect de la vie dans le relationnel. C'est-à-dire, quelle relation j'ai à la vie? Le respect, on peut dire aussi l'amour si on veut être plus spiritualiste, mais c'est la même chose. Et à partir du moment où je respecte la vie, tout se passe bien. Mon sol est en équilibre, ma plante est en équilibre, mon animal est en équilibre. Et quand il y a équilibre, comme disait l'infirmière, il y a santé.
Donc recréer le dialogue avec la nature, avec le sol, avec la terre, avec les éléments.
Complètement, tout à fait ça. Le dialogue dans le sens de respect, c'est-à-dire que l'homme n'est pas le maître de la nature, quoi. il en est le serviteur, il en est l'animateur. J'aime bien le mot animateur parce qu'il y a le mot âme dedans, hein. Anima, voilà. Bon, donc c'est pour ça que j'utilise ce terme. Mais c'est tout à fait ça. Quand nous on faisait des formations, on a beaucoup travaillé avec Hélène sur la diffusion du compostage, aussi bien en milieu, disons, de l'agriculture biologique qu'en milieu conventionnel. Mais on obligeait les agriculteurs à descendre de leur tracteur en disant vous ne ferez pas du compost sans avoir pris une fourche et l'avoir fait à la main, à mettre les mains dedans. Après, quand vous comprendrez le processus, que vous aurez observé la vie dans le tas de compost, vous pourrez remonter sur votre tracteur et puis mécaniser le compostage. Mais d'abord, il faut apprendre à observer, quoi.
Hélène, tu disais que tu viens du monde médical. Tu étais infirmière, mais aujourd'hui, tu es quoi ?
Je suis agroécologiste. Voilà, c'est un nouveau métier, agroécologiste, et j'espère qu'il y en aura plein après. C'est-à-dire que c'est de mettre en pratique déjà, de commencer par pratiquer, parce que sinon, si on pratique pas ce à quoi on croit, on n'est pas crédible, hein, je pense. Donc, que ce soit au niveau d'un jardin. Donc, moi, je travaille beaucoup au niveau des jardins maintenant, parce qu'on est on habite dans un endroit qui est semi-urbain, semi-rural. Donc, il y a même beaucoup de gens qui sont en ville et qui veulent se retrouver ce lien avec la terre et se mettre à faire du jardin, à se nourrir, il y a beaucoup de raisons différentes, mais. Donc c'est de participer à, toujours pareil, enfin, à cette prise de conscience des gens, mais en faisant avec eux, en étant les mains dans la terre, en plantant, en s'occupant d'un jardin avec eux, quoi.
On parle aujourd'hui beaucoup de thérapie, la musicothérapie, l'art-thérapie. Est-ce que les mains dans la terre-thérapie, ça existe ?
Oui, la terre-thérapie, ça n'est pas très beau, mais le jardin-thérapie, ça n'existe pas vraiment. Le terme, je ne connais pas, mais en tout cas, il y a une infirmière qui a écrit un bouquin là-dessus, hein, qui a développé les jardins dans un hôpital, enfin un jardin dans un hôpital, puis ça se fait de plus en plus en milieu hospitalier aussi. Parce qu'effectivement, et même dans les jardins d'insertion, par exemple, un jardin d'insertion, ça n'a pas le même pouvoir qu'un autre atelier d'insertion. Parce qu'on touche la terre, il y a la magie de la vie, on sème une graine, ça pousse, on récolte, on mange. Donc il y a tout ce cycle-là qui fait que ça redonne confiance aux gens, ça les remet d'aplomb, ça rééquilibre. Enfin bon, ce que ça fait avec la plante, ça le fait aussi avec les gens. Alors je ne sais pas quel mot on va trouver, mais ça existe.
Il y a aussi cette initiative qui est en train de grandir en France, les incroyables comestibles. Vous avez entendu parler ?
Oui, oui, c'est assez extraordinaire. C'est cette espèce de, disons, de dynamique pour dire, ben voilà, en fait, on devient animateur, encore une fois, ou comment dire, propagateur de la vie, quoi. Cultivant des espaces qui sont pas faits pour ça, et puis en le mettant à disposition de tout le monde, en disant voilà, je cultive ce petit bout de jardinière, ce petit bout de square, et puis tout le monde peut se servir. Ça, c'est incroyable, oui. Mais quand on voit ce qui se passe dans les pays qui sont un peu en avance, comme en Angleterre là-dessus, ça, ils reconnaissent, tous les sociologues le reconnaissent, ça a transformé la ville, quoi. Complètement transformé la ville. Et ce que Hélène disait, là, puisque je l'accompagne un peu dans son travail de formation dans les jardins sociaux, de voir les gens évoluer. Quand on met en place un jardin de pied d'immeuble comme ça, puis au bout d'un an ou deux, on voit les gens au début, leur timidité, leur machin, puis après leur assurance, leur fierté à avoir produit des beaux légumes, la façon dont ça les transforme, c'est vraiment extraordinaire, quoi. La puissance thérapeutique, elle fait aucun doute.
Yeah.
revenir sur le mot transformation. Je crois qu'on en arrive là aujourd'hui. Il faut vraiment se transformer pour pouvoir, comme disait Pierre-Ami, changer de paradigme, quoi, arriver à accueillir la suite. Est-ce que, avec le temps, les années, vous avez l'impression que l'homme se transforme? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer, ou est-ce qu'on continue nos aberrations avec la chimie, les monocultures, les pesticides et compagnie?
Ben, je pense qu'il y a vraiment les deux, hein, parce qu'il y a des agriculteurs, je pense, qui sont dans ce qu'ils connaissent et qui ne changeront pas de comportement. Je pense qu'après, il faut attendre un changement de génération, déjà, pour qu'au niveau agricole, il y ait un changement de pratique. Hein. Et le problème, c'est que ces agriculteurs qui n'ont pas encore changé de pratique, ils ont des hectares et des hectares à cultiver, quoi. Et à côté de ça, c'est vrai que dans la société civile, ça bouge beaucoup. Donc moi, je crois beaucoup plus à la société civile que vraiment aux politiciens ou à la politique, comme on l'entend classiquement, quoi. Par contre, moi, ce que je vois qui bouge beaucoup, c'est les gens. Les jeunes et des moins jeunes, mais beaucoup les jeunes. Et puis qui prennent des postes clés aussi dans les collectivités locales, donc où il y a un endroit où ils ont un certain impact et qui peuvent prendre des décisions cohérentes par rapport à l'écologie. Et puis que ça fait bouger aussi les collectivités locales. Et moi, je crois beaucoup plus à cette échelle-là de changement, et puis à celle qui se fait aussi intérieurement, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, je sais pas, bon, maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas vieux, mais en tout cas, il y a 30 ans, on existait déjà. Et donc, il y a 30 ans, il y a beaucoup moins, je sais pas, tous les stages de développement personnel, de prise de conscience, des liens entre l'aspect cosmique, la Terre, tout ça, on est au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau, tout ça, de tout ce qui est plus approche sensible. Ça existait, mais on n'en parlait pas, quoi. Donc il y a tout ça qui bouge, et moi je crois qu'à un moment, j'espère être encore là d'ailleurs pour quand ça se passera, que ça va s'articuler, et puis ça va faire comme une mayonnaise, ça va monter, puis là les politiques, justement, ils n'auront plus qu'à s'aligner ou à disparaître, mais un peu comme ce qui se passe en Amérique du Sud, par exemple, où on voit bien, enfin moi j'ai vu les gens, les jeunes, quoi, qui sont là-dedans, pour eux ça coule de source que la solution elle est là, et ils sont aussi sur le plan social, hein, comment on partage, comment on est ensemble, comment on n'est pas en compétition, mais on est en synergie, sur le plan humain, social, culturel et tout ça. Et donc si on met tout ça ensemble, eh ben, on a une force formidable, hein.
Oui, je pense au Bhoutan, un petit royaume qui a décidé de passer tout en bio. Il s'est donné, je sais pas quoi, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça, décider de tout passer en bio. C'est extraordinaire, ça. Je veux dire, voilà, pourquoi un petit roi? Bon, ok, c'est un petit pays, mais pourquoi ce qui est possible chez un petit, c'est pas possible chez un gros? Qu'est-ce qui empêcherait de se donner ce genre de challenge, quoi, de défi, de dire, ben, on a la possibilité, on sait que ça n'en serait que mieux, ça boucherait le trou de la sécu. Ça rééquilibrerait la balance des paiements parce qu'on apporterait beaucoup moins d'énergie et d'aliments de l'extérieur. Socialement, on aurait beaucoup moins de problèmes. Environnementalement aussi, moins de rivières polluées, moins de choses comme ça, etc. Enfin, moi, je vois que des avantages. Alors, évidemment, là derrière, il y a des peurs. Hein, nos politiques et nos responsables professionnels, tous, ils ont des peurs. Peur de ci, de ça, parce que, comme disait Hélène, on va vers l'inconnu. Mais oui, mais si on risque pas un peu, on peut pas avancer, quoi. Il y a qu'en prenant des risques qu'un enfant met un pas devant l'autre. Hein. Un adulte, faut peut-être qu'il fasse aussi pareil, quoi.
Bon, il n'y a plus qu'à espérer que les choses changent et aussi comprendre que le changement peut passer par l'individualité, que c'est aussi à nous de changer nos comportements. Et on va peut-être rappeler cette légende, celle du colibri, qui illustre bien que finalement chacun peut faire quelque chose. Alors, qui c'est qui va me la raconter, la légende, là?
Mais disons qu'en gros, c'est l'histoire originelle. Apparemment, ce serait un incendie, donc dans une grande forêt. Et donc, tous les animaux se mettent à aller chercher de l'eau, puis au bout d'un moment, ils abandonnent parce qu'ils disent qu'on va pas arriver à éteindre l'incendie. Et le colibri, il continue à aller chercher de l'eau, donc avec son tout petit bec, là. Et donc, il y a un autre oiseau, un tatou, je crois, qui lui dit, mais à quoi ça sert? De toute façon, vu ce que tu prends comme eau, autant t'arrêter. Et de toute façon, c'est désespéré. Et lui dit, non, moi, je continue parce que je fais ma part.
Donc à nous tous de prendre conscience de cette globalité, comme tu nous disais, Hélène, et de faire notre part. Merci à tous les deux.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Thank you. Bye.